Chapitre 30.
Heure grosse. Plusieurs incidents se produisirent dans la matinée où nous attendions les deux oculistes. Avec toute ma bonne volonté, je ne me sens pas de force à les raconter avec tout le sang-froid voulu. Quand je me reporte en imagination à cette matinée mémorable, je vois une scène de confusion et d'anxiété dont le simple souvenir me trouble l'esprit, quoiqu'un temps aussi long se soit écoulé depuis ces événements. Les objets et les personnages s'enchaînent l'un à l'autre d'une manière confuse. Je vois la charmante figure de ma chère Lucille habillée de rose et de blanc, passant comme une ombre de la maison au jardin et du jardin à la maison. Tantôt attendant, folle d'impatience, l'arrivée des médecins et tremblant un moment après d'appréhension en songeant à l'épreuve qu'elle allait subir ou au cruel désappointement qui l'attendait peut-être. Juste au moment où mon esprit parvient à fixer ses traits, le fantôme gracieux se fond dans celui du malheureux Oscar qui hésite, incertain, s'il doit aller au sable ou au presbytère. On voit qu'il a conscience des nouvelles complications amenées dans ses relations avec Lucille par l'arrivée des médecins, mais qu'il n'a cependant pas le courage de profiter de l'occasion, et de lui dire la vérité quand il en est encore temps. Puis, à Oscar, succède une nouvelle apparition qui se précipite au travers de tout avant que j'aie le temps de me préparer. C'est un fantoche qui se pavane, tout gonflé de sa propre dignité, et qui beugle à mon oreille de grands mots empoulés. « Non, Madame Pratolungo, rien ne me fera autoriser par ma présence cette consultation insensée, cette profanation qui a pour but de changer les décrets d'une providence infaillible par l'intervention humaine. Mon siège est fait. Je me sers, voyez-vous, du langage populaire pour mieux vous dépeindre ce que je ressens. Mon siège est fait. » Monsieur Finch et son siège disparaissent juste au moment où mon œil commence à les voir distinctement. Madame Finch, avec son bébé, dont toute l'occupation semble se borner à téter et à dormir, lui succède. Elle me recommande, avec des yeux baignés de fluide lacrymal, de garder le secret et me confie l'intention qu'elle a d'échapper à la surveillance de son mari et de consulter le médecin allemand et le médecin anglais, toujours gratis, sur les yeux du bébé. Imaginez-vous tous ces fantômes évoluant et s'agitant dans mon cerveau comme dans un labyrinthe. Leurs paroles se mêlent et s'entrecroisent avec leurs faits et gestes dans un fouillis inextricable qui vient encore compliquer ma propre anxiété. J'avais à surveiller les apprêts d'une collation pour les deux médecins et vous ne serez pas étonné de me voir franchir comme un bélier franchirait un obstacle 6 heures de temps précieux et de me présenter à vos yeux, seul dans le boudoir, attendant les médecins pour leur faire les honneurs de la maison. Dans l'anxiété que j'éprouvais, 2 choses cependant me consolaient. D'abord, une mayonnaise préparée de ma main et placée sur la table, un véritable chef-d'œuvre, quelque chose de simplement exquis. Puis ma robe de soie verte, garnie des dentelles de ma mère, autre chef-d'œuvre égalant le premier. Que mes regards se tournassent vers la table ou vers la glace, je sentais que je représentais dignement ma patrie. Je pouvais me dire sans crainte, même dans ce coin retiré de la terre, n'importe quelle créature humaine peut me regarder et dire « La France est toujours à la tête des nations ». L'horloge sonna 3h15. Lucille, fatiguée d'attendre, mit la tête à la porte de sa chambre et me répéta sa question incessante « Ne voyez-vous rien venir ?»
Rien, ma chère.
Combien vont-ils nous faire attendre encore?
Patience, Lucille, patience.
Elle disparut avec un soupir de désappointement. 5 minutes après, la vieille Zilla répéta le même manège.
Les voici, madame, en voiture, à la grille.
Je secouai les plis de ma robe verte et je jetai pour m'encourager un dernier regard sur la mayonnaise. J'entendis dans le jardin la voix de Nugent qui guidait les étrangers. « Par ici, messieurs, suivez-moi. » Puis des pas, et un instant après, la porte s'ouvrait et Nugent me présentait les médecins que nous attendions. Un grosse d'Amérique, Monsieur Seabright de Londres. L'Allemand fit un petit geste d'étonnement quand il entendit mon nom. L'Anglais resta parfaitement indifférent. Herr Grosse avait entendu parler de mon illustre Pratolungo, tandis que M. Sebright était dans l'ignorance la plus barbare. Je vais vous décrire Herr Grosse avec le plus grand soin. Imaginez-vous un buste puissant et trapu, sur une paire de jambes courtes et en cerceau, revêtu d'habits râpés qui n'avaient jamais connu la brosse. Le tout surmonté d'une grosse tête et d'une figure large, d'un jaune bilieux et d'une tignasse épaisse de cheveux gris de fer. Ses sourcils noirs surplombaient deux gros yeux noirs, effarés et goguenards, qui fixaient avec une certaine férocité et qui se réfugiaient derrière deux petits bastions sous forme d'une énorme paire de lunettes rondes. Ajoutez à cela une barbe et une moustache tout hérissées et mélangées de blanc, de noir et de gris. Un énorme camée monté en bague ornait l'index d'une de ses mains poilues. Quant à l'autre, elle ne faisait qu'aller et venir dans une tabatière d'argent de la grandeur d'une petite boîte à thé. Le docteur Grosse avait une voix rude et enrouée, un sourire diabolique, une parole brève et assurée. Enfin, il portait écrit des pieds à la tête la résolution, l'indépendance et la force. Tel était l'homme qui tenait, à ce que disait Nugent, la guérison de Lucille entre ses mains. L'oculiste anglais différait de son collègue autant qu'il était possible. M. Sebright était long et mince, d'une mise correcte et propre au point d'en être pénible à voir. Ses cheveux blonds et plats étaient soigneusement divisés par une raie et sa figure bien rasée n'exhibait, en fait de barbe, que deux petits favoris frisés et longs de 2 pouces à peine. Ses habits en drap noir étaient d'une coupe irréprochable et il ne possédait sur sa personne aucun ornement, pas même une chaîne de montre. Ses moindres mouvements étaient soigneusement calculés et il parlait d'une voix grave et tranquille. Ses yeux froids et gris vous regardaient avec une attention disciplinée, comme pour vous dire, en suivant les mouvements de ses lèvres minces et bien découpées, « Me voilà, si vous avez besoin de moi. » C'était un homme très capable, je n'en doute pas, mais que le ciel me préserve de l'avoir à mes côtés, soit à dîner, soit pendant un long voyage. Je reçus de mon mieux ces visiteurs d'élite. Pour ne pas être en arrière en fait de politesse, Herr Grosse me complimenta sur l'illustre nom que je portais en me donnant une poignée de main. M. Sebright s'inclina en remarquant qu'il faisait très beau. Aussitôt que l'Allemand put regarder de côté et d'autre, ses yeux se tournèrent vers la table servie. Quant à l'Anglais, il se mit à regarder par la fenêtre. « Voudriez-vous vous rafraîchir, messieurs ?» Herr Grosse approuva fortement de la tête, tandis que ses gros yeux, brillant d'un feu étrange derrière ses énormes lunettes, dévoraient par anticipation la mayonnaise. « Oh ah ! Voilà ce que j'aime !» s'écria l'illustre docteur en montrant le plat du doigt. « Vous avez les fers avec des crèmes, n'est-ce pas ? Est-il des boulets ou des homards ? J'aime mieux les homards. Les poulets ont des bons aussi. Les carnitures, il est admirable. Anchois, olives, betteraves. Des blancs, des verts, des rouges, sur une sauce planche bien grasse. C'est un plat céleste. Il rafraîchit de 2 façons, par la vue et par le goût. So, nous allons l'entamer. Vous commencerez, montame Pratolungo. Tenez, voici la saucière. » Dans ce langage extraordinaire, mettant le pluriel pour le singulier, et bannissant entièrement la conjonction, etc., Herr Grosse nous annonça qu'il était tout prêt à se mettre à table. Son collègue l'arracha à la contemplation de la mayonnaise d'une façon discrète et polie. « Pardon, lui dit M. Sebright, ne serait-il pas bon de voir tout d'abord la demoiselle ? Je suis forcé de retourner à Londres par le premier train. » Herr Grosse, qui avait déjà saisi une fourchette et un couteau, et qui s'était mis sa serviette autour du cou, jeta un regard attristé sur la mayonnaise, secoua la tête et tourna le dos, le cœur gros, à son plat favori. « Bon, nous allons faire nos ouvrages d'abord, puis, mon cher, nos déjeuners ensuite. Les malades, où est-il ? Allons, commençons, vite, vite !» Il retira sa serviette, soupira avec un bruit que je ne puis comparer qu'à celui d'un soufflet de forge et plongea ses doigts dans sa gigantesque tabatière. « Où sont les malades ? » répéta-t-il d'un ton irrité. « Pourquoi n'est-elle pas là, tout près ?»«
Elle attend dans la pièce à côté, lui répondis-je. Je vais vous l'amener tout de suite. Vous aurez la bonté, messieurs, dis-je en regardant les deux oculistes, d'excuser sa timidité. »
M. Sibrail s'inclina en silence et Herr Grosse ébaucha un sourire qui voulait être aimable et qui n'était que diabolique et me dit
« Soyez tranquille, ma pauvre Tame, je n'être pas si féroce que j'affre l'air. »
« Où est Oscar ?» demanda Duguent au moment où j'allais dans la chambre de Lucile. Après avoir hésité et changé d'idée plus de 12 fois, il s'est enfin décidé à ne pas assister à la visite des médecins. J'avais à peine dit ces paroles qu'Oscar entra. Il paraît qu'il avait changé d'avis pour la 13e fois. Herr Grosse poussa une exclamation en allemand à la vue de la figure d'Oscar.
« Ah, Goff ! » s'écria-t-il. « Il affre brise des nitrates d'argent. Ses teints sont gâtés. Pauvre garçon ! Pauvre garçon !»
Puis, secouant sa grosse tête ébouriffée, il cracha, en signe de compassion sans doute, dans un coin du tapis. Oscar eut l'air offensé, M. Sibrait l'air dégoûté, tandis que Nuggins riait de bon cœur. Je sortis en fermant la porte derrière moi. J'avais à peine fait deux pas dans le corridor que j'entendis la porte se rouvrir. En me retournant, je me trouvai, à mon grand étonnement, face à face avec Herr Grosse, qui me fixait d'un air féroce à travers ses lunettes et qui m'offrait son bras.
« Chut !» me dit-il à l'oreille d'une voix enrouée. « Bas un mot à personne. Je suis venu vous aider. »«
M'aider ? » répétai-je. Herr Grosse se mit à secouer la tête en signe d'affirmation avec une telle violence que ses énormes lunettes se mirent à danser sur son nez.
« Que m'a fait vous dire tout à l'heure ? Que les malades aident nerveuses ? Bon, je suis venu avec vous chez les malades pour vous aider à l'amener. So, je ne suis pas aussi méchant que j'en ai l'air. Allons, fite, où est-elle ? »
J'hésitais un instant avant d'introduire ce singulier ambassadeur dans la chambre de Lucile. Elle se leva en entendant le bruit, inconnu pour elle, des pas du docteur.
« Qu'est-ce ? » s'écria-t-elle.
« C'est moi, ma chère !» répondit Herr Grosse.
« Ah, Gott ! La jolie demoiselle ! Voici juste le teint que j'aime, rose et blanc. Jolie ! Ma demoiselle, pour vos petits yeux, si je vous rends l'affût, hein, vous m'aimerez, n'est-ce pas ? Vous voudrez bien embrasser un vilain allemand comme moi ? So, venez sous mon bras. Nous retournerons dans les autres chambres. Il y a un autre docteur pour vous rendre aussi la lumière. C'est M. Sibrait. Deux opticiens pour une jolie demoiselle. Hein ? Entre nous, nous guérirons cette jolie fille, mon Tame Bratulungo. Voici ma notre bras à votre service. Eh bien, quoi ? Vous regardez mon manche ? Il être sale, il être gras. Je suis honteux pour lui. Mais ça ne fait rien. Vous allez voir M. Sibrait dans l'autre chambre. Il est tout frais, tout pimpant, tout neuf. Allons, en avant, marche !»
Nuggins, qui nous attendait dans le corridor, nous ouvrit la porte.
« N'est-ce pas qu'il est charmant ?» me dit-il à l'oreille en me montrant son ami. Nous fîmes, sous l'escorte d'Herr Grosse, une entrée triomphale dans la salle à manger. Notre docteur allemand avait déjà produit un bon effet pour Lucile en dépouillant de la moitié de ses terreurs l'examen médical qui devait avoir lieu. Herr Grosse avait réussi à la faire rire et à la mettre à son aise. M. Sibrait et Oscar étaient en train de causer quand nous entrâmes. Cet Anglais, si réservé, semblait ressentir pour Oscar, à cause peut-être de sa timidité, une certaine sympathie. M. Sibrait parut surpris en voyant Lucile, et sa figure froide s'anima d'intérêt pour elle quand elle lui fut présentée. Il lui mit une chaise près de la fenêtre, et quand il la pria de s'asseoir, il y avait dans sa voix un accent chaleureux que je ne lui connaissais pas. Lucile s'assit. M. Sibrait fit un pas en arrière, s'inclina devant Herr Grosse, en faisant de la main un geste poli et qui semblait dire « À vous le premier !» Herr Grosse, ne voulant pas être en reste de politesse, fit de son côté le même geste et secoua sa tête crépue en s'écriant « Moi, le premier, jamais !»
Pardon, dit Monsieur Seabright, un étranger visitant l'Angleterre, notre maître, mon aîné. Herr Grosse répondit en prenant rapidement trois prises de tabac, une à chaque compliment. Un silence embarrassant s'ensuivit. Les deux médecins, c'était évident, ne voulaient pas prendre le pas l'un sur l'autre. Nugent intervint. « Mademoiselle Finch attend, dit-il. Allons, Herr Grosse, puisque c'est vous qui avez été présenté à mademoiselle le premier, veuillez commencer. » Herr Grosse prit d'un air de bonne humeur l'oreille de Nugent entre l'index et le pouce et la lui pinça. « Pile garçon, dit-il, il sait toujours trancher les difficultés d'un mot. » Et se balançant sur ses petites jambes, Herr Grosse s'avança jusqu'au fauteuil de Lucille et, voyant Oscar qui se penchait et lui parlait bas à l'oreille en lui tenant la main, il s'arrêta d'un air tout scandalisé. « Gaumont, s'écria-t-il, un troisième oculiste, est-ce en brenant la main de la jeune demoiselle que vous foulez lui quérir les yeux? Vous êtes un charlatan, ôtez-fou de là !» Oscar se retira d'assez mauvaise grâce, tandis que Herr Grosse s'asseyait devant Lucille et ôtait ses lunettes. Ayant la vue courte, il voyait fort bien naturellement les objets très rapprochés. Il approcha sa figure de celle de Lucille et ouvrit alternativement les paupières de chaque œil en examinant la pupille avec attention. Ce moment fut plein d'émotions. Il ne pouvait en être autrement quand nous songions à l'influence que pouvait exercer ce petit docteur allemand si étrange sur la destinée de Lucille. Vous dirai-je avec quelle attention nous suivions les moindres mouvements de ses épais sourcils et de ses gros yeux perçants, et combien nous fûmes désappointés dès le début de l'examen, en voyant Lucille avoir tout à coup un léger frisson de dégoût qu'elle ne put dissimuler. Herr Grosse se releva et la regarda de son air diabolique qu'il s'efforçait de rendre aimable. « Ah ah ! Dit-il, je vois ce que c'est. Je prise, je fume, je répands l'odeur du tout bas. La jolie demoiselle l'a senti. Elle s'est dit à elle-même « Ah, Gott, comme il sent mauvais !» Lucille éclata de rire, sur quoi Herr Grosse, se mettant à rire avec une grimace comique, lui enleva son mouchoir de la poche de son tablier. « Tes parfums, tes odeurs !» s'écria l'excellent Allemand. « Je vais mettre le nez de la demoiselle sous son propre mouchoir. Ainsi, elle ne pourra pas sentir l'odeur que je sens. Tout sera très bien, très bon. Nous continuerons. » Sur ce, je tendis à Herr Grosse un flacon d'eau de Cologne. Il en inonda gravement le mouchoir de Lucille et le lui mit subitement sous le nez. « Tenez le pied, mademoiselle. Vous ne sentirez plus la mauvaise odeur d'Herr Grosse. Bon, maintenant nous pouvons continuer. » Il prit dans la poche de son gilet une loupe et attendit que Lucille se fût épuisée à force de rire. Puis il remit cet examen si cruellement grotesque et si terriblement sérieux quand nous songions à ses conséquences. Lucille se pressa son mouchoir sur son nez et se tint à demi renversée en arrière, tandis que Herr Grosse lui examinait minutieusement les yeux à travers son verre grossissant. Au bout de quelques instants, l'examen était terminé. Herr Grosse remit sa loupe dans son gousset avec un grognement de satisfaction et enleva le mouchoir à Lucille. « Ah, la vilaine odeur !» dit-il en le mettant sous son propre nez avec une grimace de dégoût. « Le parfum du tout bas être bien meilleur !» Puis il se régala, pour dédommager sans doute son air olfactif de l'odeur de l'eau de Cologne, d'une énorme prise de tabac. « Maintenant, je fais barler. Voyez, je me tiens à distance. Vous n'avez plus besoin de votre mouchoir, vous ne me sentez plus. « Je vous en supplie, monsieur, dites-moi si je dois rester aveugle ou si vous pouvez me guérir. M'embrasserai fou si je vous le dis. De grâce, ne me tenez plus en suspens. Dites-le-moi tout de suite, je vous en prie. » Elle voulut se jeter à ses genoux. Il la retint avec force, mais avec douceur, dans son fauteuil. Allons, allons, doucement. Soyons bien sages et répondons à ceci. La paresseuse petite trouve-t-elle quelque différence quand elle fait ses promenades par un beau soleil bien brillant et quand elle est au lit dans la nuit bien noire? Oui, monsieur. « Bon, alors vous vous apercevez qu'il fait clair le jour, tandis que la nuit, il fait bien obscur, tout noir. Oui. Alors pourquoi me demandez-vous si vous êtes aveugle pour toujours? Si vous éprouvez cette sensation que je viens de décrire, vous n'êtes pour ainsi dire pas aveugle du tout. Elle joignit les mains avec un cri de joie étouffé.
« Oh, où est Oscar ? » dit-elle doucement. « Où est-il ? »
Je le cherchais des yeux. Il n'était plus là. Il avait dû se glisser dehors, tandis que son frère et moi, nous écoutions le docteur et Lucille. Herr Grosse se leva et céda sa place à M. Sebright. Dans l'extase où la mettait la confirmation de ses plus chères espérances, Lucille ne sembla pas avoir conscience de la présence de l'oculiste anglais. Quant à celui-ci, il prit un air encore plus grave et, ouvrant doucement les paupières de Lucille, il tira une loupe de sa poche et se mit à lui examiner les yeux, absolument comme Herr Grosse. Mais il y mit beaucoup plus de temps que son collègue et, quand il eut fini, il se leva sans dire un mot et laissa Lucille absorbée dans la joie qu'elle éprouvait en apprenant qu'elle pourrait recouvrer la vue. « Eh bien, » dit Nugget avec impatience à M. Sebright, « qu'en dites-vous, docteur ?»«
Je ne puis me prononcer aussi vite. »
Sur ce reproche indirect adressé à Nugent, il se tourna vers moi et me dit qu'il avait appris que Mlle Finch était aveugle, ou à peu près aveugle, à l'âge d'un an.
« En effet, lui répondis-je, c'est bien là ce qu'on m'a toujours dit. »
« Y a-t-il là quelqu'un qui puisse me renseigner sur ce qu'on a observé lorsqu'elle était enfant ?» Je sonnai Zilla. « Sa mère est morte, repris-je, et son père ne put assister à cette consultation pour des raisons inutiles à énumérer ici. Mais la vieille nourrice de Mlle Finch pourra vous donner les renseignements que vous demandez. » Zilla parut. M. Sebright commença à la questionner. « Étiez-vous dans la maison lorsque Mlle Finch vint au monde ?»
« Oui, monsieur. »
Y avait-il quelque chose d'extraordinaire dans ses yeux, à sa naissance ou peu de temps après ?»«
Rien, monsieur. » »«
Comment l'avez-vous su ?»«
En la voyant regarder tout ce qui se trouvait devant elle, les lumières, par exemple. Elle essayait aussi, comme tous les babies, de saisir les objets à sa portée. » »«
À quoi vous êtes-vous aperçu qu'elle devenait aveugle ?»«
Je me suis aperçu que ses yeux étaient devenus, pour ainsi dire, ternes et froids, et qu'elle ne semblait plus rien voir, quoi que nous fissions pour attirer son attention.
Cet affaiblissement est-il venu par degrés ?
Oui, monsieur, peu à peu, et en faisant chaque semaine des progrès. Si bien qu'au moment où elle atteignit sa première année, nous acquîmes la conviction qu'elle avait entièrement perdu la vue.
Son père et sa mère ont-ils toujours eu les yeux en bon état ?
Oui, monsieur, à ma connaissance du moins.
M. Sebright se tourna vers Herr Grosse, qui contemplait la mayonnaise d'un air de résignation. « Désirez-vous questionner à votre tour la nourrice ?» lui demanda-t-il. Herr Grosse haussa les épaules et, indiquant Lucille du pouce sans se retourner, il s'écria « Cèdre aussi glais que teux et teux font quatre. Harcotte, qu'ai-je besoin de questionner la nourrice ?» Il se remit à contempler avec convoitise la mayonnaise. Le magnifique abétit que j'avais en entrant ici. Je vais être fatigué d'attendre, reprit-il. Quand allons-nous déjeuner ? M. Sebright conservait toujours sa réserve glaciale. Il congédia Zilla par une simple inclinaison de la tête. Ses façons commençaient à nous donner des inquiétudes sur le verdict qu'il avait à prononcer. Je m'aventurai à lui demander s'il était arrivé à une conclusion quelconque sur l'état de Lucille. « Vous me permettrez, madame, me répondit-il, de ne vous répondre qu'après avoir consulté mon collègue. » Je tirai Lucille de sa rêverie. Elle demanda de nouveau Oscar et je lui répondis, en les emmenant, elle et Nugent, que nous le retrouverions probablement dans le jardin. Comme nous passions près de la table, j'entendis Herr Grosse qui, d'un air piteux, disait à Nugent « Revenez bientôt, pour l'amour de Dieu, et mettons-nous à table. » Nous laissâmes en consultation ces deux hommes si différents l'un de l'autre.